Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc pour la suite de ce roman de Jean-Claude Izot, Les Marins Perdus. Diamantis haussa les épaules. Abdoul posa sa main sur son bras. Leurs yeux se rencontrèrent. « Je vais te dire, Abdoul. Je suis resté parce que t'es trop con. Un type comme toi qui se fait piéger par une crapule comme Constantin Takis, j'arrive pas à y croire. » Abdoul retira sa main. « Ben c'est de ça que je voulais te parler. » Diamantis sourit. « Considère que c'est fait. » J'ai pas besoin de savoir le pourquoi du comment, je m'en contrefous. On a de l'amitié l'un pour l'autre. Je crois alors, laisse tomber, Abdoul. L'essentiel. Diamantis posa ses fesses sur la table. La position debout était épuisante. Tu te rappelles, reprit-il, la fois où on est entré à Guayaquil? Comment ne pas s'en souvenir? Autour d'eux, ça grouillait de pirates, une dizaine de pirogues à moteur, une centaine de types prêts à l'abordage. Pour eux, ce bateau, c'est comme un poulet. Quand ils voudront, ils le plumeront. C'est ça que tu avais dit en distribuant des armes à l'équipage. Ouais, répondit Abdoul, sans comprendre où Diamantis voulait en venir. T'as ajouté aussi que si l'armée ne venait pas nous prêter main forte, on avait toutes les chances d'y laisser notre peau, armée ou pas. Mais qu'est-ce qu'on fout avec ça? Avait demandé Rosario en montrant son fusil à grenaille. Rien, t'avais répondu. Absolument rien. Ça, c'est juste pour respecter le règlement. Dans une demi-heure, tu laisses tomber ton flingue et on se tire tous d'ici. On mérite pas de crever pour 6000 pièces détachées de téléviseurs en kit, non? L'armée est arrivée et on s'en est tiré sans casse. Ouais, l'essentiel c'est ça, Abdoul. S'en tirer sans casse. J'ai pas d'explication à te demander du genre pourquoi hier t'étais sur ce cargo et prêt à l'abandonner pour rester en vie et pourquoi aujourd'hui t'es sur ce rafio et prêt à y rester, quitte à en crever. Tu piges? Et alors? Bah règle tes histoires. Moi je vais régler les miennes après. On part faire la fête, ok? Les miennes, je les ai réglées. Diamantis le regarda un triste sourire aux lèvres. « Je crois pas, Abdoul, je crois pas, tu tirerais pas une tronche comme ça. Je suis sûr qu'au fond de toi, Abdoul, t'as toujours pas admis que ces faits, elles t'aient plaqué. Mais qu'est-ce que t'en sais? J'en sais que pas une seule fois t'as parlé des enfants, pas une seule fois t'as parlé de ces faits et des enfants, pas une seule fois t'as parlé d'elles, de toi et des enfants comme d'une famille. » Tu n'as parlé que de toi. Je t'emmerde, Diamantis. Tu vois, Abdoul, tu croyais avoir à me parler, mais tu n'as rien à me dire. Salut. Quand il arriva, plage du prophète, il était plus de 7 heures. Nedim avait bu 2 bières, puis il s'était mis au gin. Cela faisait bien longtemps qu'il avait renoncé à l'idée de piquer la bagnole de Lala pour tracer la route jusqu'en Turquie. Ils se marraient comme de vieux copains tous les deux, et Amina n'était plus là. Oui, c'était une autre histoire, cette cicatrice. Amina regarda Nedim, il lui souriait, fier de lui, avec cette cruauté que l'on peut avoir parfois quand on a été humilié. Lala et elle ne l'avaient pas épargné l'autre nuit. Elle se jouait de lui, maintenant encore. C'était sa vie. Amina n'avait plus, ni pour la justice, ni pour la pitié, le moindre sentiment. Pas plus d'ailleurs qu'elle ne s'apitoyait sur son sort. C'était la vie, la sienne. Elle ne l'avait pas choisie. Elle avait simplement décidé de ne plus la subir le jour où ce salopard de Bruno Schmidt l'avait tailladée d'un coup de couteau. Elle rendit son sourire à Nedim sans la moindre rancœur. C'était un petit connard, comme elle en avait vu défiler des centaines au Habana. Frimeur et naïf, forcément. Pas méchant, pas courageux non plus. Pourtant, jamais elle n'aurait imaginé qu'il puisse oser lui poser la question sur sa cicatrice. Les autres évitaient. Ils évitaient même que leurs yeux s'attardent à cet endroit de son visage, sur cette étoile, comme un miroir brisé qui marquait sa chair. Son regard et ses propos savaient renvoyer celui qui s'y essayait, homme ou femme, peu importe, à ses propres défauts, à ses pires faiblesses. Amina avait oublié le sang dégoulinant sur sa joue en larmes épaisses et chaudes, mais pas le choc de la lame sur l'os, ni le cri qu'il lui avait arraché. Plus que sur sa peau, cela était gravé dans sa mémoire. Puis ce soir-là, il lui suffisait de fermer les yeux n'importe quand pour revivre la seconde où le couteau avait frappé sa joue. L'humiliation pure. D'un seul mot, elle pouvait stigmatiser non pas la chair de Nedim, mais sa fierté masculine. Des mots cruels, elle en avait plein en répertoire. Ils étaient sur sa langue, brûlant. Lala épiait Amina tout en sirotant sa menthe à l'eau. Elle attendait d'Amina une de ces méchantes phrases qui la laveraient du même coup des regards obscènes de Nedim. Amina avala une gorgée de coca, oui. Elle dit simplement, c'est une autre histoire. Et Nedim n'insista pas. Sa question posée, il sut qu'il frôlait le pire. La réponse cinglante qui l'humilierait, les mots, il les avait vus se former sur les lèvres d'Amina. Il aurait presque pu les lire. Nedim n'avait pas vraiment réfléchi avant de dire ça, comme toujours. Au fond de lui, il avait pitié d'elle, pour cette offense qui avait été faite à sa beauté. Il baissa les yeux, but une gorgée de sa bière, reporta un instant son regard sur les cuisses de Lala, puis se retourna vers Amina. « C'est une connerie, Amina. Excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça. » Sans demander son avis à Lala, il attrapa son paquet de clopes et s'en alluma une. Il était vraiment mal. Vraiment. Son père, il l'avait vendu à Bruno Schmidt. Pour combien d'argent, elle l'ignorait. Mais il l'avait bel et bien vendue. Elle rentrait du lycée ce jour-là, pressée de se mettre au travail, de lire. Le bac était pour bientôt et, lui semblait-il, plus ce moment approchait, moins elle savait de choses. Le bac, elle le voulait, et aller en fac, et puis être prof. C'est l'avenir qu'elle s'était construit dans sa tête. La maison était vide et cela la surprit. Sa mère était toujours là quand elle revenait. Elle faisait des ménages le matin, du repassage à domicile l'après-midi, mais cela ne l'inquiéta pas pour autant. Du linge à livrer ou à aller chercher, sa mère vivait dans l'urgence des fins de mois. On était fin mai et il faisait déjà très chaud. Elle but un grand verre d'eau dans la cuisine, puis elle décida de prendre une douche. Elle se changerait et après elle s'attaquerait à nouveau à Balzac. Balzac l'ennuyait, c'était un poseur. Elle préférait Dumas. La reine Margot, la San Felice, le comte de Monte Cristo. Mais Dumas n'était pas au programme. Schmidt, il était là, quand elle sortit de la douche. Il lui tendait une serviette en souriant. Elle poussa un cri. Il lui tira deux baffes. Avec violence, deux baffes qui la laissèrent sans voix. Quand sa mère rentra, Amina finissait de préparer son sac de voyage, convaincue qu'elle ne pourrait plus rien pour elle. Elle n'avait pu la protéger de la putasserie de son père, elle ne pourrait pas empêcher Schmidt de revenir. Sa vie avait basculé. Si elle voulait vivre, il lui fallait partir, recommencer une autre existence. Elle n'oublierait pas cette souillure, elle n'oublierait pas la honte. Mais elle croyait à une vie possible entre la souillure et la honte, parce que maintenant elle avait la rage au ventre. Elle avait pris une douche, une autre pour laver chaque parcelle de son corps, les moindres replis de sa peau que Schmidt avait caressé, embrassé, ou ne serait-ce que touché. Elle s'était débarrassée des pudeurs de l'adolescence. Son sac était dans le salon, prêt. Les yeux de sa mère étaient fuyants. Elle n'était plus mère et fille, mais deux femmes qui n'avaient plus que leur malheur à partager. Sa mère la serra contre elle. « Moi aussi, je vais partir », elle murmura. Elles ne se dirent rien d'autre, pas même au revoir. Plus tard, peut-être, elles pourraient se parler. Aujourd'hui, les mots n'avaient plus de sens. Ils étaient vides, comme l'une et l'autre. Le soir où, sortant d'une pizzeria avec Diamantis, elle aperçut son père sur le trottoir opposé, elle sut que ce n'était pas un hasard. Le malheur n'était pas loin, il rôdait encore. Elle s'était dit ça. Elle regarda autour d'elle, prête à voir surgir Schmidt. La peur l'envahit, pas une peur humaine, ordinaire, qui vous rattrape comme ça dans un moment d'inconscience ou de faiblesse, non, une peur profonde et sans issue, irraisonnée, irraisonnable. Cela faisait des mois qu'elle jouait à cache-cache avec son ancienne vie, évitant tous les lieux où l'on pouvait la retrouver. Elle n'avait pas remis les pieds au lycée et avait vécu 2 semaines chez une copine, une fille plus âgée qu'elle avait connue dans une fête, Myriam. Elle bossait aux Dames de France. C'est elle qui la fit embaucher au magasin pour les vacances d'abord. Mais Marseille est un village. On traîne dans les bars, on va au cinéma, on flâne dans les rues, on prend le bus. Forcément, un jour, quelqu'un vous reconnaît et le dit à ceux qui vous cherchent. Parce qu'elle n'en doutait pas, Amina Schmidt la cherchait. Il ne devait pas être le seul, il avait payé son père et il en voulait pour son argent, tout son argent. La peur, ce soir-là, fut telle qu'elle voulut immédiatement rentrer. Elle ne se sentait pas bien. Elle le dit à Diamantis, sans doute un truc qu'elle avait mangé. Il tenait à la raccompagner. Elle refusa et elle prit un taxi. Le premier qui passa, comme une voleuse, la trouille au ventre. « Appelle-moi demain !» C'était tout ce qu'elle avait trouvé à bredouiller.
La mer n'est pas la mer. C'est un gouffre sans fond qui avale les garçons par les matins trop clairs. L'amour n'est pas l'amour, c'est un faux carrefour où les filles entrent en chantant, en ressortant pleurant. La vie n'est pas la vie, mais triste comédie qu'il faut vite quitter. Avant que d'y goûter, moi je sais un pays qui est bien loin d'ici, où la mer et la vie et l'amour sont unis, où la mer et la vie et l'amour sont unis.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Les marins perdus, Jean-Claude Izot. Amina regarda l'heure. Elle désespérait de voir arriver Diamantis. Ricardo lui avait donné rendez-vous à 7h30 au son des guitares, place de l'Opéra. On prendra l'apéritif et puis on ira dîner quelque part. Elle ne pouvait pas se défiler. Déjà hier soir, il l'avait attendue au mât pour manger avec un couple d'amis, mais elle n'avait pas pu se résoudre à les rejoindre. Elle était encore sous le choc d'avoir revu Diamantis. « Tu voulais pas te baigner ?» elle demanda à Lala. Elle souhaitait être seule. La présence de Lala et de Nedim lui pesait. Elle avait besoin de réfléchir encore, pas d'entretenir la conversation. « T'y vas pas, toi ?» Elle haussa les épaules. « Peut-être. Mais allez-y, vous deux. » Elle regarda Nedim, puis Lala. Il fallait qu'elle comprenne, Lala, qu'elle souhaitait être seule. « Et c'est que j'ai pas ce qu'il faut, moi. Il loue des maillots ici. Je vais t'arranger ça, » répliqua Lala. Elle se leva et partit à l'intérieur du bar. Nedim ne put s'empêcher de l'accompagner du regard. Il la dévorait des yeux. Putain, peut-être que dans l'eau, il pourrait lui mettre la main au derrière. « Tu vas t'abîmer les yeux, » plaisanta Amina. « C'est pas ce qui fait le plus mal, » il répondit, « et c'est gratuit. » Amina sourit. Il y avait quelque chose qu'elle aimait bien dans ce type, une espèce de sincérité naturelle. Très vite, on ne pouvait plus le détester, même si tout ce qu'il était, tout ce qu'il pensait était insupportable. Elle réduisait trop les hommes à leur saloperie, se dit-elle. Les femmes, pour eux, elles étaient toutes ou baisables ou de sombres connes. C'était ça leur monde, simpliste et donc forcément dramatique, mortel. Nedim, c'est sûr, raisonnait ainsi. Mais s'avoua-t-elle, Diamantis devait avoir de la sympathie pour lui, sinon pourquoi se serait-il mêlé de ses affaires? Pourquoi aurait-il pris sur lui ses dettes? C'est ma fille. Ça lui échappa. Sur ses lèvres, les mots étaient arrivés sans retenue. À cause de cette sincérité qui habitait Nedim, qu'elle ressentait et qui l'émouvait. Depuis combien de temps n'avait-elle pas pris le temps d'écouter un homme autrement qu'avec le seul souci de lui faire claquer le maximum de blé? Ils racontaient tous la même histoire. Ils mentaient. Ils se mentaient. Aucun n'était capable d'être vrai, ne fût-ce qu'une seconde. Mais peut-être était-ce son boulot qui voulait ça. Pouvait-on être sincère avec une entraîneuse dans un bar américain? Nedim la regarda ahuri. « Je te crois pas, » dit-il. Qu'est-ce qu'elle lui racontait? Lala, sa fille? Pourquoi elle lui disait ça? À lui? Putain, mais qu'est-ce qu'il en avait à foutre? De qui elle était la fille, Lala? Rien. Fallait pas qu'on l'entraîne dans des histoires comme ça. Ça lui brouillait les idées. Il pourrait plus mater Lala pareil si l'autre était sa mère. Ça le gênait, quoi. Il regarda Amina. Il était en colère. Puis merde, quand on avait une fille comme ça, on se démerdait pour qu'elle fasse pas le tapin, elle aussi. Bon, c'est vrai, c'était pas des putes, mais quand même, tu parles d'une éducation. Est-ce qu'il ferait ça avec sa fille, lui? Tiens, si avec Lala, il ouvrait cette boîte à Istanbul, sûr que non. Alors, un, il fallait pas qu'elle lui fasse le coup de la mère et de la fille. Non, mais il était con, mais quand même. Amina, faussement amicale, tapa sur la cuisse de Nedim. Hey, « C'était juste pour voir quelle gueule tu ferais, Nedim. Tu le connais depuis longtemps, Diamantis ?» Elle enchaîna, comme si de rien n'était. « De ce voyage. Dommage, d'ailleurs. Pourquoi ?»« Ben, pour moi, naviguer, tout ça, c'est fini. Je rentre chez moi. »« Et lui ?»« Ben, qu'est-ce que j'en sais? Il cause pas trop, Diamantis. De lui, je veux dire. Il est marié ?» Diamantis n'arrivait pas. Et toutes les questions qu'elle souhaitait lui poser se pressaient dans sa bouche, impatiente, avide de réponses, affluaient dans le désordre des années du silence qui avait suivi leur rendez-vous manqué au bar du Cap. Combien de fois s'était-elle demandé ce qu'était devenu Diamantis? Combien de fois s'était-elle surprise à imaginer leur rencontre par hasard dans une rue de Marseille, se demandant toujours s'ils se reconnaîtraient? Je croyais que vous le connaissiez, moi. Bon, mais qu'est-ce qu'elle foutait là avec son maillot? Il n'aimait pas trop la tournure que prenait la discussion. Cette femme, à nouveau, elle le mettait mal à l'aise. Elle le dominait. Il avait bien compris qu'elle ne se moquait plus trop de lui, mais c'était pire maintenant qu'elle était sérieuse. Il ne pouvait plus déconner avec elle, et même avec Lala, il le sentait. Et merde, Nedim, c'est quoi cette galère-là, avec ces deux femmes à attendre Diamantis? C'était pas net, tout ça. De ne pas piger, Nedim, ça l'inquiétait. Il allait prétexter le besoin de pisser et il se casserait. De toute façon, c'était pas après lui qu'elles en avaient, mais après Diamantis. Alors il se démerderait. Diamantis, s'il venait. Parce que c'était pas évident qu'il se pointe, peut-être qu'il en avait pas envie de les voir, ses filles. Enfin, elle surtout, Amina. Il se leva. Amina le retint par le bras. Nedim, elle dit, t'as pas à avoir peur. Je lui veux pas de mal à ton pote, à toi non plus. Ce qui s'est passé entre nous l'autre nuit, c'était autre chose, du taf, tu comprends, du taf, rien que ça. Et c'est toi qu'on a rencontré, c'est tout. J'ai pas peur, il mentit. Lala sortait du bar. Nedim faillit tomber à la renverse en la voyant. Le maillot blanc qu'elle portait se résumait à un bout de tissu en haut et un autre bout de tissu en bas. Le tout semblait difficilement contenir ce qu'il y avait en haut et en bas. Il pensa à Ezel. Elle devrait en faire des prouesses toute sa vie pour lui faire oublier le corps de Lala. Et pourtant, se força-t-il à reconnaître, c'est Ezel qu'il aimait. Elle lui manquait, rien qu'en perdant les yeux sur les formes de Lala. Enfin presque, et sans doute parce que Lala, à cet instant, lui parut à jamais inaccessible. Elle lui tendit un slip de bain noir. Elle rit, lui aussi. « Tire-toi, » se redit Nedim. Mais la perspective d'aller se baigner avec Lala, avec tous les mecs en train de la mater, excitait son orgueil. Ça lui plaisait bien cette idée qu'on puisse imaginer qu'il se l'envoyait. Et puis quoi, merde, à force de faire comme si, ça se réaliserait peut-être. Amina les suivit des yeux. Nedim avait pris la main de Lala pour traverser la plage. Il ne la lâcha que pour entrer dans l'eau. La vie pouvait être aussi simple que ça. Un homme, une femme, qui se rencontrent sur une plage ou dans un bar, comme elle et Diamantis. Ils se plaisent, ils s'aiment, et la vie va. Amina avait le sentiment que Nedim, il ne la laissait pas aussi indifférente que ça, Lala. Il était plutôt mignon d'ailleurs, elle trouvait plutôt sain finalement. C'est elle qui ne l'était pas saine. À bosser comme elle le faisait, à racoler ici et là pour ramener du fric au Habana, c'est-à-dire dans la poche de Ricardo. Elle les perdit de vue une fois dans l'eau. Ricardo. Il avait organisé sa vie comme si elle était son esclave. Avec la même liberté que les esclaves. La chaîne était longue, mais il y avait une chaîne. Et au bout, quelqu'un qui la tenait en main, la main ferme, sans pitié, de Ricardo. Ton petit ami, le marin, il a renoncé à venir, il lui avait annoncé. Je vous crois pas. Crois ce que tu veux, mais tu risques pas de le revoir de sitôt. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Demanda-t-elle, inquiète. Rien de méchant, peur, c'est tout. Une grosse peur. Il rit, il s'est même chié dessus. Vous n'avez pas le droit. Il haussa les épaules. Il sortit un étui à cigarette et lui tendit une. « Je vais te dire, Amina, » il reprit, après lui avoir donné du feu. « Tu as plein de choses à apprendre. On en parlera bientôt, mais souviens-toi d'un truc. Quand tu as heurté ma bagnole, pour toi c'était moins grave que d'être rechopé avec ces types, tu sais, ceux qui te serraient au cul. Avec eux, tu serais pas dans ce lit, mais à trois pieds sous terre. Considère ça, que tu me dois la vie. » Plus tard, elle avait appris qui était Ricardo, un des hommes importants du milieu marseillais, un des derniers survivants aussi, et un homme dangereux donc. Il lui avait laissé le choix où elle devenait sa maîtresse du moment, où il la mettait sur le trottoir. « Je t'emmerde », elle avait répondu. Il lui avait tiré une claque, violente, mais sans haine, froidement. « Réfléchis ». Elle avait vite réfléchi. D'autant plus vite que Ricardo accepta sa condition. Ne plus être à la merci d'un coup de folie de Schmitt. Penser à lui, à son cran d'arrêt, lui filait la nausée. Le savoir dans les rues lui ôtait tout désir de s'y promener. Un matin, Ricardo lui apporta le journal. La photo de Schmitt s'étalait en une. Il avait pris deux balles dans le ventre et une dans la tête en rentrant chez lui la veille au soir. Règlement de compte, commentait le journal. Amina ne voulut pas lire ce qu'on racontait sur lui. L'important, c'est qu'il était crevé, comme un chien. Elle avait appris ça en peu de temps, qu'il n'existe ni justice ni pitié. Un moment, elle avait aussi pensé à demander la tête de son père, mais elle n'avait pu s'y résoudre. Ce n'était qu'un pauvre type. Elle lui devait tout son malheur, mais c'était son père. Elle s'assura juste qu'il n'emmerderait plus sa mère. Amina aida sa mère à refaire sa vie loin de lui, convenablement, et sans plus avoir à travailler comme femme de ménage. Ils l'installèrent dans une petite maison individuelle à Beaumont, dans ce quartier italien où Ricardo avait des oncles et des cousins. Amina aimait venir la trouver pour prendre un café ou manger un couscous, comme elle seule savait le faire. Ricardo ne l'accompagnait jamais. Il la laissait libre de l'intimité avec sa mère. C'était un mois avant qu'elle n'accouche. Qu'elle était enceinte, Amina le cacha le plus longtemps possible à Ricardo jusqu'à ce qu'il ne lui soit plus possible d'avorter. Heureusement, elle ne grossit pas très vite. « C'est le gosse du marin ?» il demanda. « Oui. » Elle s'attendit à recevoir une claque, mais elle n'arriva pas. « D'accord, il dit après un moment de silence, c'est ta mère qui l'élèvera, je lui donnerai l'argent pour ça. » Lala avait grandi heureuse, fausse orpheline entourée de tendresse par ses deux tantes, Amina, elle s'abandonna à Ricardo. Avec lui, elle plongea comme en eau profonde, sans y être préparée. Vivre avec lui, elle découvrit cela, revenait à s'aventurer vite et très loin dans un monde qui se révélait être aussi dangereux qu'il était fascinant. Être à Ricardo lui conférait pouvoir et confort, le respect aussi et la sécurité. Elle ne risquait plus rien. Sa vie n'avait plus de sens, mais elle se déroulait plus heureuse que des milliers d'autres. Une vie de raison comme il y avait des mariages de raison, elle s'y habitua. Avec le temps, Ricardo se lassa d'elle, de son corps, on se lasse toujours des vies sans amour. Elle vieillissait lui aussi, il eut d'autres maîtresses à Marseille, mais aussi sur la Côte d'Azur, pas mal d'ennuis aussi, on s'affrontait entre gangs, pour la drogue, la prostitution, les jeux clandestins. Sur le terrain de l'immobilier également, pour des marchés publics, et donc sur le contrôle des hommes politiques. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Jean-Claude Izot, Les Marins perdus, que nous terminerons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.